Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges, spécial séries éliminatoires d'initiaires de hockey. Comme on vous l'a dit et qu'on vous l'a promis, on va faire un épisode à tous les jours durant ces séries éliminatoires-là. Oui, ça s'annonce compliqué, mais on va y arriver quand même. Puis aujourd'hui, on est juste trois. Il y a moi, Doyle Ibrahim, qui va être encore l'animation pour cet épisode-là. Et je suis accompagné de Vincent Tardif et Olivier Prince-Grelot. Messieurs, comment allez-vous?
Ça va bien, toi?
Ça va bien,
yes.
Je
pense que les deux, on a laissé parler l'autre en premier. Puis,
exact. Puis là, finalement, écoute, ça a été whoop. Mais ça va très bien, merci. Et toi, Doyle, ça va bien?
Ah, écoute, ça va bien, merci. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que la troisième journée des séries éliminatoires était assez particulière hier, pour être franc. Là. On a eu beaucoup d'action, mais il y a eu très peu de matchs serrés comparativement au match qui avait eu lieu mardi passé. Puis, on est là pour en parler. Là, mais en général, moi, à date, j'apprécie bien beaucoup de moments inattendus aussi. On va en parler. Les gardiens de but, les pénalités, aussi des buts spectaculaires aussi, on va en parler. Bref, on a de l'action comme ça se peut pas. Là. Moi, je suis pleinement satisfait du début des séries éliminatoires. Mais là, on va plonger un peu plus dans les séries éliminatoires de la LNH. Puis on va commencer avec les deux séries dans l'Association de l'Est. Il faut le préciser, il y a eu 4 matchs au total, 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest. Puis on va commencer avec la série entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de Caroline qui avait eu lieu hier soir à Raleigh en Caroline du Nord. Puis encore une fois, les Hurricanes de Caroline l'ont emporté par la marque de 5-2 et mène cette série-là 2-0. Je vais commencer avec toi, Vincent. T'as pensé quoi de ce match-là entre la Caroline et Boston?
Moi, je pense que les Bruins vont falloir qu'ils se réveillent un peu. Là. Les Hurricanes sont partout, les Bruins sont nulle part. Même devant le filet, là, je pense que Lino sur le marque, c'est pas la réponse là, pour les Bruins. J'aimerais ça voir. C'est sûr que ça va être un peu un couteau tranchant de faire rentrer Swayman à 2-0, là, mais j'aimerais ça voir ce qu'il est capable de faire là, à la place de Woodmark. Vraiment, je trouve pas qu'il se démarque devant le filet. Puis du côté de Hurricanes, juste bien prononcer son nom. Très bien fait hier.
Ah, oh, Kochekov, ok, ouais.
Kochekov, oui, monsieur, oui. Qui est rentré après que Rantas soit fait jouer par Pasternak. C'est vrai, une des seules fois qu'on a vu Pasternak
effectivement
dans le match. Puis la seule fois qu'on a vu Marchand aussi, c'est quand il a slashé justement Kochekov. Fait que non.
Ouais.
Il faut que ça se réveille un peu de ce côté-là. Là.
Ouais. Toi, Ali, t'as pensé quoi de la performance à Caroline? Est-ce que c'est plus que convaincant, à ton avis?
Ah, ben, comme dans le match numéro 1, je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour mériter la victoire. Comme Vince l'a dit, les Bruins se doivent de sortir plus fort pour rivaliser contre les Canes. Bergeron, 2 buts hier. Il a essayé d'allumer sa team, mais je pense encore qu'il manque de profondeur en attaque pour les Bruins. Là. On voit que le trio, que ce soit de Taylor Hall, avec Frederick, peu importe d'autres trios, là. Je ne connais pas par cœur. Là. Mais bref, ça a un manque de profondeur. Même Pasternak, Marchand, vous l'avez dit, Marchand a une passe, ceci dit, mais on ne les a pas vus à part dans des gestes peu recommandables envers les gardiens. D'ailleurs, Pasternak qui a blessé Ranta, je ne sais pas selon vous si c'était volontaire, est-ce que c'était une perte d'équilibre, mais. Oui, comme Vince l'a dit, je pense que là, même si tu perds 0-2, il faut que tu ailles avec Swayman prochain match. Il faut que tu essaies de virer les choses de bord, comme on dit en québécois. Là. Puis voilà.
Ah, mais c'est sûr. Mais par contre, pour répondre à ta question à propos de la situation Ranta Pasternak, moi, je pense qu'il n'a pas fait exprès. C'est sûr qu'au départ, les arbitres avaient décidé de donner à 5 minutes pour à l'endroit de David Pasternak, mais moi, je pense qu'ils ont juste donné ces 5 minutes-là pour comme se raviser et dire est-ce que c'est la bonne décision ou pas, ou est-ce qu'on décide de prendre 2 minutes. Puis finalement, ils ont changé leur décision. Ils ont donné 2 minutes de pénalité à Pasternak pour obstruction. Mais c'est vrai que c'est un geste extrêmement dangereux. Terranta, hier, clairement, il y avait une commotion cérébrale, là, c'est sûr. Là,
mais,
pis...
mais c'est la main que je comprends pas pourquoi il a mis sa main là. T'sais, il était en perte d'équilibre, oui.
Peut-être essayer de la retenir ou juste, tu sais, comme...
Ouais, il a essayé de se retenir, mais...
Ouais, peut-être aussi de retenir Ranta pour pas...
Ouais, mais c'est ça, tu y mets ta main dans le cou, man, et boy.
Ouais, je sais pas. Ça arrive vite, hein?
Ouais, clairement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression... Ah oui, excuse-moi.
C'est... Vas-y, non, continue.
Mais moi, tu sais, j'avais prédit la Caroline en 5 matchs, puis j'ai vraiment l'impression que ça va peut-être arriver pour elle, parce que moi, je pense que Boston va rebondir là, au prochain match, ou peut-être au match numéro 4. Ils vont gagner un match à Boston, puis ils vont perdre, ouais. Ils vont en perdre un autre, aussi, ouais. Ils perdent aussi le match numéro 5 à Caroline. Pour vrai, comme on le voit, là, la Caroline est clairement supérieure aux Bruins de Boston dans tous les aspects du jeu. Puis je trouve que l'aspect qui est révélateur, c'est quand Boston commence à jouer un style un peu plus robuste et essayer d'essayer de blesser ou de déranger l'adversaire, c'est là que j'ai vraiment l'impression qu'ils sortent de leur match puis que tu as l'impression que rien ne va. Là. C'est ça qui est arrivé hier, on l'a vu, le Pasternak, que ce soit Marchand. Aussi, un geste qui est indiscipliné à mon avis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les boys, mais quand c'est Derek Forbert qui a donné un coup de bâton directement au visage de Teuvo Teravainen. Ça m'a lancé contre moi, mais je te dis, c'était un coup de bâton là, gratuit directement sur le visage de Teravainen. Ça, pour moi, c'est un geste qui va peut-être valoir une amende. On n'a pas encore eu de nouvelles par rapport à ça, mais c'était vraiment dangereux comme geste. Puis c'est un geste purement d'indiscipline. Ça venait juste confirmer que Boston était hors de leur match, puis que la Caroline a juste contrôlé les deux premiers matchs. C'est vraiment à sens unique. Là. J'espère pour vrai que cette série-là va durer plus longtemps, là, mais à date, c'est mal parti pour les Bruins. Hein.
Puis tu sais, même en plus, ils vont essayer d'aller de répondre avec, comme tu disais, un peu de robustesse, d'être plus physique. Là, les Hurricanes sont capables de répondre, comme on a vu ce Smeshikov hier, là, complètement détruire Lindholm. Là. Il a détruit en fait Lindholm et son bâton. je pense que les Hurricanes sont... Je pensais que les Bruins allaient être capables d'un peu de jouer dans leur tête avec leur physicalité. Puis le reste de leur jeu avec le grit qu'ils ont. Mais finalement, les Hurricanes sont capables de très bien répondre avec ça. Puis leur profondeur fait juste leur permettre de dominer les Bruins. Hein.
Exact. Non. Puis d'où tu as parlé de l'avantage numérique, c'est 2-9 pour les Hurricanes. Là. Fait que 9 pénalités pour les Bruins, c'est de l'indiscipline. Ouais, c'est beaucoup trop. Puis les Hurricanes n'ont peut-être pas la puissance offensive que le Lightning ou l'Avalanche, par exemple, mais ça reste les Hurricanes. Ouais. Tu as des excellents joueurs avec AO, avec D'Angelo, etc. Fait que tu peux pas te permettre d'avoir 9 pénalités dans 9-2 minutes en fait dans un match. Puis comme tu dis, voilà.
Ouais. Si justement tu donnes 9 chances à une équipe, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont finir par scorer. Là.
Exactement. C'est 2-9, ça aurait pu être pire. Là. Fait que voilà. Puis on va en reparler de l'indiscipline plus tard dans ce podcast. Puis aussi, je pense que leur foule va grandement aider les Bruins pour. Leur ramener de l'énergie pour leurs deux matchs à la maison. Puis ils doivent absolument gagner le prochain, là, sinon ça va très mal la série pour eux à 0-3. Là.
Moi, peu importe. Moi, j'espère que Boston va remporter leurs deux premiers matchs pour eux, là, parce que s'ils perdent un match au TD Garden, oublie ça, là, la série est finie.
Ah, ben oui.
La série est finie. Oh, ils gagneront pas un match à Caroline. Ils en gagneront pas un.
Non.
C'est sûr. Mais bref. Mais ça va s'annoncer intéressant. Le prochain match, le match numéro 3, va avoir lieu demain soir au TD Garden à Boston. Puis comme Ali, tu l'as dit, c'est sûr que la foule au TD Garden va être bruyante. Puis ça va peut-être galvaniser la troupe de Bruce Cassidy là, qui en ont besoin en ce moment parce que live, ça va très mal de leur côté. Là.
Ouais.
Bon! Allons vers la deuxième série qui avait eu lieu hier soir du côté de Toronto. Deuxième match entre les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay dans cette série-là. Et le Lightning, comme on l'avait dit, comme on s'en attendait tous, on s'est dit que le Lightning allait rebondir. Et c'est ça qu'ils ont fait hier. Et ils ont gagné, ils ont remporté leur match 5-3. Les gros canons s'est réveillés. Victor Hedman, performance de 4 points. Kucherov aussi a marqué. Brandon Point a marqué. André Vasilevski, oui, a quand même accordé 3 buts, mais a fait les arrêts au bon moment. Puis le Lightning a réussi à gagner un match à Toronto. Puis je crois qu'ils ont atteint pleinement leur objectif parce qu'ils retournent à la maison. Puis on sait comment le Lightning sont dominés à domicile. Puis ils vont trouver un moyen de gagner peut-être d'autres matchs dans cette série-là. Mais ça s'annonce vraiment serré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, boys, mais moi j'ai vraiment aimé le match hier, là.
Ouais. Mais ben, comme Vince avait parlé dernier podcast, les stats de Vasilevski en game 2, là. Et voilà, une victoire de plus qui s'ajoute à sa fiche en match numéro 2. Puis ouais, comme tu l'as dit, le Lightning est sorti fort, on fallait s'y attendre. Je pense aussi qu'on va avoir une série très serrée qui pourrait se rendre en 7. Puis exact, les gros canons, c'est ce que le Lightning a besoin pour performer. Ces gros canons embarquent, le reste va suivre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement au Lightning qui a parti mou et qui est resté mou tout le long de la game, les Leafs sont quand même revenus dans le match. Puis à un certain point, on se disait, est-ce qu'ils vont compléter la remontée? T'sais, ils ont une pénalité en fin de match. Ça n'est pas arrivé finalement. Mais c'est ça, je trouve que les Leafs sont revenus. Et peut-être ça a laissé place à un petit doute dans la tête de la Lightning. C'est que oui, on a gagné, mais tu sais, les Leafs n'étaient pas loin et nous, on était très loin au match numéro 1. Les Leafs, eux, ils se sont rapprochés pas mal. Fait que peut-être que dans l'avantage psychologique, peut-être les Leafs sont plus hauts qu'on le pense, là.
Non, clairement. Puis aussi, mais moi, par contre, j'ai remarqué quelque chose. Je trouve qu'il y a Jack Campbell a mal joué en général. Comme oui, André Vasilevski, oui, il a accordé quelques buts, mais. Quand il avait besoin de faire les arrêts, il les faisait les arrêts. Jack Campbell, c'est pas ça qui est arrivé pour lui. Mm-hmm. Puis c'est là que je commence à avoir un point d'interrogation du côté des Maple Leafs de Toronto, surtout devant les filets, parce qu'on se dit, OK, ben, quand les matchs vont être un peu plus serrés, est-ce que Jack Campbell va être capable de faire les gros arrêts puis de permettre au Lightning de peut-être. Pas permettre Lightning, mais je veux dire, permettre au Leafs de gagner un match ou de voler un match au Lightning aussi, tu sais. Moi, je pense que c'est un point d'interrogation à ne pas négliger. Là.
C'est comme l'année passée, il ne sera pas capable. Là. Contre le Canadien, il n'a pas été capable de sauver son équipe. Là. Je ne sais pas aussi qu'est-ce qu'il a essayé de faire là, sur le but à Edman. Essayer de deviner où ce qu'il a allé tirer.
Ouais.
Jeté à sa droite.
Hey, il restait une seconde à la game. Ouais. Reste devant ton filet. Edman, il va shotter puis tu vas l'arrêter. Il a bougé avant qu'Edman chute. Voyons-le. Ouais. C'est clair que c'était le mauvais jeu. Là.
Tu as parlé de Vasilevski. Il n'a jamais perdu deux games de suite en série.
C'est fou.
Non, c'était pas aujourd'hui. C'était pas hier que ça allait arriver. Mais je sais pas si le Lightning ont juste slacké à la pédale un peu à 5 à 1 puis les Leafs en ont profité. Là, fait que je sais pas
Peut-être. Si mais tu sais, les Leafs sont pas slackés à la pédale dans le match numéro 1.
Ouais,
c'est
ça que je veux dire, hein. Non, exact. Non. Ils ont fait ce que le Lightning n'a pas fait. Dans le fond, ils ont continué à être intense. J'ai hâte de voir comment ils vont répondre là, au début de la. Game 3, là, à Tampa Bay, les Leafs, après avoir perdu, est-ce qu'ils vont avoir perdu leur confiance? Comment ça va marcher?
Mais je pense pas, justement. Je pense qu'ils se sont pas effondrés dans leur confiance parce qu'ils ont joué un bon match. Ils sont venus une bonne fin de match, en fait. Là, ils sont venus sur le Lightning quand même. On était à quoi? 5 à 1?
Ouais,
on est rendu à 5 à 1, puis c'est devenu 5-3. Fait que, on est revenu de deux buts quand même. Fait que je pense que les Leafs n'ont pas perdu leur confiance puis qu'on va avoir droit à tout un match numéro 3. Puis encore les unités spéciales. Écoute, désolé pour les stats, là, mais 3 en 7, c'est tu peux pas laisser 7 pénalités au Lightning. Ouais, c'est sûr que tu vas payer cash.
Surtout Wentz-Emmett a pogné deux pénalités stupides et pas nécessaires. Qui ont mené à deux buts en avantage numérique du Lightning de Tampa Bay. Il faut absolument que les Leafs évitent de prendre non seulement des deux minutes, mais des deux minutes inutiles, là, des deux minutes pour rudesse, des deux minutes pour obstruction, le genre de pénalité que tu peux éviter, là, ben faut que les Leafs trouvent un moyen de ne pas les obtenir, parce que s'ils obtiennent des pénalités ridicules comme Wentz-Emmett hier soir, comme on a vu le Lightning de Tampa Bay, comme on a vu l'efficacité du Lightning de Tampa Bay en avantage numérique, ben, ça va juste leur coûter cher. Là.
Mais il y a beaucoup de pénalités.
Excuse-moi.
Il y a beaucoup de pénalités en série. Je ne suis pas sûr que j'aime ça à date. Là.
Ouais.
Que les arbitres callent tout et que chaque fois, ils... on dit qu'on empêche les joueurs d'être intenses.
je suis d'accord que d'habitude, on était plus strict. Puis, ouais, c'est ça.
Je suis pas sûr.
Ça me semble que ça dévie de ce que l'hockey de série est.
La Ligue nationale pour dire comme, hey, le hockey en série aussi, il y a des buts pour attirer des gens. Là, je sais pas si c'est un message de la Ligue ou c'est juste comme les arbitres, ils filent comme ça. Puis...
Ben, moi, la seule série que j'ai vu pas beaucoup de pénalités, ben, il y a juste eu un match, mais c'est le match qui a duré le plus longtemps, le match entre les Rangers et les Penguins, c'est là que j'ai vu le moins de pénalités. Mais est-ce que c'est une question de discipline des deux côtés ou c'est juste vraiment que les arbitres étaient plus tranquilles? Ça, je le sais pas, là, t'es... C'est... Mais en effet, il y a eu beaucoup de pénalités depuis le début des séries éliminatoires, puis c'est peut-être par le fait que les arbitres sont un peu plus sévères. Là. Peut-être juste ça. Là.
C'est intéressant le point que tu apportes, Dou, parce que tu as dit le match contre Penguin Rangers, c'est lui que tu as vu le moins de pénalités, puis c'est probablement le match le plus divertissant jusqu'à date. Fait, est-ce qu'on peut tracer un lien entre les deux, peut-être là? En tout cas.
Ouais, ben, faudrait vérifier là, du côté de la
Faudrait faire une étude là. Scientifique, là, je suis pas rendu là.
Ah, pas grave, de toute façon, on est en début de vacances, fait qu'on a le temps, là. On a 4
minutes. Exact.
Bon, messieurs.
Je suis à la fin, j'aime vraiment ça de voir l'intensité entre les Leafs et le Lightning là, à chaque arrêt de jeu. Comment que ça brasse là, quand un gardien fait un arrêt, tout le temps quelqu'un qui pogne quelqu'un par le cou. Mm-hmm. Puis, j'aime bien ça, ouais, ça.
Puis c'est ça. Contrairement aux Bruins qui essayent de provoquer quelque chose, qui essayent d'amener du monde au cachot, ben c'est juste mutuel pour l'intensité du côté Lightning League. Ça fait que ouais, c'est beau à voir.
Ouais, ben écoutez, ça s'annonce intéressant cette série-là qui va aller aussi demain soir du côté de Tampa Bay. Là, on va aller du côté de l'Association de l'Ouest. On a eu droit à deux matchs à sens unique au niveau du pointage, mais deux équipes qui ont rebondi. Là. Alors, d'abord, on va commencer du côté du Wild du Minnesota contre les Blues de Saint-Louis. Victoire convaincante du Wild de 6-2 au PG. T'as pensé quoi de cette performance du Wild du Minnesota et surtout de M. Kaprizov?
Taux de chapeau pour Kirill de Trill. Mais c'est ça. Moi, il faut dire, j'ai pas vu les deux games du soir, mais j'ai vu les faits saillants. Mais ouais, je voulais que le Wild... j'étais déçu que le Wild ait sorti aussi flat offensivement dans le premier match. Fait que d'aller voir débouler les buts comme ça, 6 buts. Eric Senek, Greenway ont joué un très beau match aussi. Frédéric Gaudreau qui a marqué, un autre Québécois, on parlait des Québécois qui s'illustrent. Donc voilà, le Wild, je suis... bien content pour eux que leur offensive ait débloqué. Les Blues sont tombés dans le même piège que le Wild dans le premier match, on dirait. Puis j'espère que dans le match numéro 3, on va avoir un match offensif, mais serré, pour un chapitre de Wild Blues qui est... Plusieurs au début disaient que ça allait être la série la plus serrée. Je pense à peu près tout le monde dans nos prédictions l'a mis en 7 matchs. Mais à date, c'est la série 1-1, mais les deux matchs n'étaient pas serrés. Donc, j'ai hâte de voir un match offensif et serré.
Non, clairement. Toi, Vincent, t'en as pensé quoi de ce match-là?
Comme on a dit, on en avait parlé, je pense, après le mardi, après la game de lundi, là, que le Wild se devait d'apporter de l'aide offensive à Flowers s'il voulait avoir une chance de remporter la série contre les Blues. J'ai vraiment aussi aimé le match de Marc-André. Là. Il s'est vraiment repris, je trouve, la dernière game où il a pas donné de retour comme il a donné. Il y avait quoi? C'était 6 avantages numériques, je pense, les Blues qu'il y avait eu. Puis il y avait 2 en 6. Là, ils ont 1 en 5 aujourd'hui, fait, hier. Donc, je pense que les Blues sont vraiment... Le Wild s'est vraiment repris. Puis, Moi, j'ai vraiment aimé la partie. Là. Surtout la première période. Je ne sais pas vraiment écouter le reste, mais la première période... Les Blues les ont fait payer. Le Wild a fait payer les Blues avec 2 buts en avantage numérique. Là, fait que... Mm-hmm. Non, je pense que...
Puis, ouais, 32 arrêts pour Fleury, 3e étoile. Il s'est bien repris, comme tu as dit. On pensait peut-être voir Talbot. Moi, je m'attendais à voir Talbot. Mais on est resté avec Fleury, puis ça a été payant, on dirait bien.
On n'a aucun changement de gardien, finalement. On se posait des questions s'il allait avoir un changement de gardien. Finalement, les 3 équipes ont resté avec leur gardien. Ça a payé pour 2, puis pas pour une.
Mike Smith, je pense qu'on se disait qu'il va rester là. Comme Nick en parlait. Ouais.
Son petit jeu de vidange à la fin, là, je vous arrêtais assez pour le mettre dehors.
Ouais, je comprends, mais est-ce que tu, comme Nick disait dans le premier épisode, veux-tu vraiment mettre Pico?
Je pourrais en parler en segment des, quand on va parler des Oilers un peu plus loin. Là, mais
parfait, parfait. J'ai hâte d'entendre ça.
Ouais. Ben, par contre, qu'est-ce que j'aimerais souligner, c'est que je trouve que Villeusso hier a été un peu plus chancelant. Puis ça a paru. Là. Mm-hmm. Pour vrai, comme, ok, oui, les Blues de Saint-Louis ont connu un match un peu plus difficile, mais dès le départ, le premier but de Joel Eriksson-Ek, c'était sur le premier tir. Par la suite, le but de Gaudreau, c'était sur le troisième tir. Ça a été dès le départ, puis on le sait à quel point c'est important pour le gardien de but de faire ses premiers arrêts s'il veut connaître un bon match. Mm-hmm. Si t'accordes des buts sur tes premiers lancers, oublie ça, là, le trois quarts du temps, tu vas perdre, puis ton équipe, malgré que tu as une équipe comme celle des Blues qui sont capables de marquer, ou celle des Oilers, ou même l'Avalanche Colorado, ça paye cash. Là. Ça a vraiment été mal difficile pour Villeusso, mais en même temps, on l'a vu, le Fleury. Fleury a connu un match un peu plus difficile au match numéro 1, puis il a su rebondir hier. Donc, je serais pas surpris que Villeusso réussisse à bien s'en sortir. Pour le match numéro 3. T'sais, le match numéro 3, il va être à Saint-Louis aussi, ça va être intéressant. Là. On parle de l'importance de la foule et de l'importance d'être à domicile. Les Blues de Saint-Louis qui reviennent à Saint-Louis avec un pointage de 1-1. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Moi, je pense que ça va être sérieux. J'avais pris Saint-Louis en 6. Je pense que c'est moi qui ai pris le moins de matchs.
Ouais, je pense que c'est le seul avec 6.
Ouais, exact.
Au niveau des panélistes. Mais ça se peut que je me trompe. Moi, ça se pourrait que ça aille jusqu'à cette match. C'est pas pour rien qu'on l'a souvent souligné. C'est la série la plus excitante. Puis ça va être la série la plus serrée du côté de non seulement de l'Association de l'Ouest, mais de la Ligue au complet. Là.
Lightning Leafs aussi. J'espère que ça va être très serré. Mais je pense que ça va être ces deux-là. Lightning Leafs dans l'Est. Mm. Puis Wild Blues dans l'Ouest pour ce qui est des séries.
Ouais, exactement.
Je sais pas c'est quoi les stats, là, mais je sais pas si. Le Wild, je pense que c'est une équipe qui est. S'ils continuent à prendre les devants, je pense, dans la série, à chaque début de match, là, je pense que ça va être dur pour les Blues de revenir dans le match. Avec la défensive qu'ils ont, puis le type de joueur que le Wild ont, là, je pense qu'ils jouent avec un avance de 1 ou 2-0, je pense que c'est là qu'ils vont jouer le mieux. Là. Mm-hmm. J'ai hâte de voir pour le reste si les Blues sont capables de marquer en premier.
Ouais. Je suis très d'accord. Le prochain match va avoir lieu également demain soir à 9h30 à Saint-Louis.
On a eu un tour du chapeau de David Perron dans le premier match, un tour du chapeau de Kirill Kaprizov dans le deuxième. Qui est-ce qui va arriver avec un tour du chapeau dans le troisième match? J'ai hâte de voir.
Ça va être un joueur des Blues.
Ouais.
Si on suit la tendance, la régularité, c'est censé être ça, ouais.
Trois buts pour Tyler Bozak.
Ouais, 3 buts pour Tyler Bozak, puis 3 buts pour Middleton.
Ok, ben écoute, si vous faire une prédiction.
Ça serait fou,
moi, je vais aller avec Robert Bertuzzo, et voilà.
Oh, ok.
Il est meilleur pour payer pour péter son bâton, lui, mais.
Dimitri Kulikov.
Ok,
on enchaîne.
On enchaîne.
Nick Deslauriers, ça serait bon.
Nick Deslauriers, ah, ça serait bon, nice.
Avec combien de temps de jeu il y a? Avec 7 minutes de temps de jeu, 3 buts, ça serait incroyable.
Tu parles d'efficacité, là. Ça serait efficace, ça. 7 minutes, 3. Hey, ce serait quoi? Ça serait comme un but ou 2 minutes?
Ouais, quelque chose de même. Ouais.
Ce serait légendaire. Là, Vincent, on va aller vers la série que tu portes plus attention. Celle entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles. Victoire de 6-0 des Oilers d'Edmonton. Victoire convaincante, Mike Smith avec le jeu blanc et Evan DeKane avec 2 buts aussi.
Yes.
Performance convaincante.
Je pense que, oui, les Oilers, c'est une victoire convaincante. Ils ont bien joué, mais. Je sais pas si vous avez vu la première pénalité du match qui a mené au Billy Oilers.
Non, malheureusement, j'ai pas vu.
Non.
Je m'en rappelle.
Non, c'est. D'après moi, Mike Smith se dirige vers une carrière de plongeur là, olympique à la suite des séries. C'est Antonescu qui a à peine rentré dedans, puis tu l'as vu plonger par en arrière, puis se garrocher. Écoute, ça a provoqué une pénalité, puis les Oilers ont
pris le temps. À 40 ans, le corps est moins résistant, peut-être. Là.
Exact. Ah, c'est un bon point. C'est un bon point. Ça. Mais ouais, après ce but-là de Draisaitl en avantage numérique, je pense pas que les Oilers ont gardé vers l'arrière. Le jeu a ouvert un peu pour que les Kings qui tentaient d'en venir dans le match, ça l'a amené à un but de Turner en désavantage numérique qui a appuyé l'attaque, puis après ça, ben, c'est terminé. Mike Smith bien gardé les buts, là, même si en première période, il a été très chanceux. Je ne sais pas c'est qui a tiré. Je pense que c'est Kopitar, il a tiré. Mike Smith a tiré la rondelle glissant en arrière.
Oui.
Il s'est fait sauver par son défenseur, là, mais ça aurait pu être un match tout à fait différent s'il accorde ce but-là. Là.
Ouais. Mais je pense qu'on j'ai pas vu le match encore une fois, mais je pense que quand les Oilers sortent fort, que McDavid a deux passes, Draisaitl a un but, ils ont été là, mais ils n'ont pas été ils ont pas eu des performances exceptionnelles avec énormément de points.
Mais c'est ce que je trouvais.
Ouais, ouais, vas-y.
Je veux dire que c'est ce que je trouvais que le fun avec, je trouve que avec les Oilers cette année, c'est que il y a eu des matchs où c'était la profondeur qui produisait. Il y a eu une passe où c'était des Derek Ryan qui marque autour du chapeau, Warren Fogle qui marque deux buts dans un match, Ryan McLeod qui en marque deux. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve le fun, les Oilers cette année, c'est que la profondeur, tant que les deux gros canons ne produisent pas, on a le reste qui est capable de venir produire.
Exactement. Mais c'est ça qu'on a bien fait, je trouve, dans l'entre-saison, d'amener Warren Fogle, d'amener Ryan McLeod, d'amener Zach Hyman, Duncan Keith même. Puis... on n'avait peut-être pas les années précédentes. Ça permet de la profondeur. Encore, moi, je trouve que on aurait pu retirer un de ces joueurs-là puis amener un goaler à la place. Moi, c'est mon opinion. C'est ça. Mais oui, pour ce qui est de la profondeur offensivement et défensivement, je suis très d'accord avec toi. Ça porte fruit présentement. Puis c'est ce que je disais, c'est que les Oilers sont capables de gagner des matchs, pas juste avec McDavid et Draisaitl. On l'a vu hier. Puis si ce scénario-là se reproduit pour le reste de la série, je pense que les Kings, ça va être très difficile pour eux. Là.
Non, je suis 100% d'accord. Puis aussi, moi, c'est que j'aimerais dire bravo à Ken Allen d'avoir pris le risque d'aller signer Evander Kane, parce qu'en ce moment, ça produit, puis ça porte fruit du côté d'Oilers Edmonton. Puis on le sait qu'Evander Kane, le problème, c'est pas sur la glace. Ce gars-là a un talent incroyable. C'est juste qu'on sait qu'Alexandre de la patinoire, c'est notre histoire pour cet individu-là. Puis, Canalan puis les Oilers d'Edmonton savaient que c'était un risque à prendre d'aller chercher Evander Kane via les joueurs autonomes. Puis, à date, ça porte ses fruits parce que Evander Kane, encore une fois, il y a deux buts. Deux buts, je sais pas s'il y a une passe, il y a juste deux buts. Je pense qu'il y a juste deux buts, right?
Je pense qu'il y a juste deux buts, oui.
Ouais, c'est ça, mais deux buts.
Non, oui, il y a une passe sur le but de...
Ouais, je crois qu'il y a deux buts, une passe. Ouais, c'est ça, il y a deux buts, une passe. Puis, le premier but, OK, oui, le premier but de Van Dijken était chanceux, là. C'est le défenseur Chandersy qui
a mis contre son cas, là.
Mais comme le reste, c'est une performance impeccable. Non seulement de lui, mais j'irais aussi de son trio avec McDavid et Paul Garveau aussi, qui a marqué également hier soir. Là. C'est une victoire convaincante du côté des Oilers. Puis il faut arrêter aussi de critiquer tout le temps Mike Smith. Là. Mike Smith, hier, il a joué un bon match en général.
Ouais, en général, oui. Mais tu as parlé d'Evander Kane et d'un pari risqué, d'où. C'est vrai pour ce qui est hors glace surtout, là, mais tu regardes son 2 millions par année, un peu plus de 2 millions par année, c'est risqué, mais si jamais tu te trompes, tu perds 2 millions que tu n'aurais probablement pas utilisé. Donc, je pense que c'était quand même un move calculé pour All In.
Puis il y a une excellente production, là, je viens de regarder. Il y a 22 buts en 43 matchs.
Ouais, exact.
C'est un but ou deux games.
Okay. Si on veut parler d'un vrai pari, ben, le plus gros pari risqué cette saison, tant qu'à moi, c'est Jack Eichel là, avec Vegas. Ça a pas mal moins bien payé. Tu sais, je pense que Evander Kane a des meilleurs stats qu'Eichel. Là, bref, avec 10 millions, là, Eichel, là, on l'a vu, là, ça, les Golden Knights sont pas en série. Bref, c'est ça. Pour les Kings, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de rivaliser contre ces Oilers-là, puis d'essayer de retrouver d'être dans la même taille que le match numéro 1, qui était plus dans le style des Kings, qui qui était préférable aux Kings, parce qu'un un match comme on a vu hier, c'est, ça, la série va aller du côté d'Edmonton, c'est pas mal sûr. Là.
C'est pas pire, au moins, Dano a quand même bien joué hier là, avec son trio, puis même Kopitar. Comme tu as rappelé, c'est la profondeur des Oilers qui a fait de la différence en temps en terrain, à 5 contre 5.
Exact.
Ouais, puis écoutez, monsieur, ça va compléter notre résumé des matchs d'hier. Hier, on a oublié de le faire, mais on va le faire aujourd'hui. On va dire aux gens nos surprises et nos déceptions de la soirée. Je vais commencer avec toi, Olivier. Quelle est ta surprise et ta déception de la soirée d'hier?
Je suis content que tu m'aies appelé Olivier. C'est un privilège que j'ai maintenant que l'hôtelier n'est pas là. Merci. fait que pour la surprise, ben. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je pense que c'est plus le fait qu'elle ait bien rebondi. C'est la performance de Victor Hedman pour le Lightning. 4 points, solide. T'sais, oui, Campbell était pas bon sur le premier but du match de Hedman, mais il a quand même eu la patience d'attendre que le goaler fasse un move. Plein de joueurs, il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Tu essaies un shot qui ne marche pas, puis la période finit là. C'est, voilà. Mais là, lui, il a bien pris son temps. Il a battu Campbell, il a été patient. Puis la passe pour le but à Corey, wow, honnêtement. Là, il a perdu quelques secondes avant de la faire, puis il a été capable de la faire après. Puis il a été solide défensivement aussi. Fait que chapeau à Victor qui s'est bien repris. Donc, c'est pour le point positif, ça serait Victor. Pour la déception, je vais y aller, j'en ai parlé tantôt, là, mais la profondeur des Bruins, je suis désolé, ça, c'est pas suffisant. On avait vu une bonne fin de saison pour Eric Halla, pour Greg Smith, pour même Charlie Coyle, puis ils répondent pas jusqu'à date en série, là, puis... Thomas Nosek aussi, que je trouvais intéressant. Lazar, Nosek, Foligno comme quatrième ligne, je trouvais ça quand même assez intéressant, mais on les voit pas offensivement. Fait que, c'est, les Bruins, c'est ma déception. Puis pour qu'ils puissent espérer gagner la série, il faut qu'ils commencent à l'égaliser premièrement, ce qui va être très difficile, mais il faut que la profondeur se réveille. Là. Donc, ma déception, c'est la profondeur des Bruins.
Deux excellents choix. Je suis très d'accord avec toi.
Ben, merci.
Surtout du côté des Blues de Boston. Là, à date, c'est pas facile pour eux. Vincent, quelle est ta déception et ta surprise de la soirée d'hier soir?
Ma surprise, je vais rester dans le match Bruins Hurricanes. Ma surprise, c'est Kochetkov qui est rentré pour remplacer Renta. Ouais. Je t'en bon vraiment choix. Pas à ce qu'il soit capable de performer comme ça. Là, Thomas nous en avait parlé un peu lors du premier épisode, là, que il avait connu, je sais pas c'est quoi, c'était quoi ces stats là, en saison, il a gaulé, en saison régulière, il a gaulé 3 matchs, 902, 242. Là, hier, la pression d'un gardien, un peu réchauffé un peu du warm-up qu'il venait de faire, parce que c'est quand même en début de match, là, mais un peu froid, parce qu'il était pas déjà... Ouais. Pour regarder recru.
Moins pire que Louis qui entre en deuxième prolongation quand même.
Après avoir mangé un bon porc épicé et des brocolis.
Yes. Yes.
Mais ouais, je dirais que c'est lui ma surprise. Mm-hmm. Puis ma déception, Oli a parlé de la profondeur des Bruins. Moi, je vais y aller plus des gros canons des Bruins.
Ah, aussi. Yeah. Mais tu sais, parce que Bergeron a marqué les deux buts. Fait que je me suis dit, au moins Bergeron a répondu.
Pastrnak et Marchand. Là. Ça, c'est mes deux déceptions. Ouais. Marchand, oui, il y a une passe, là, mais il n'y a rien fait d'autre. Là.
Je suis d'accord.
Puis Pastrnak, Pastrnak a 8 tirs, mais toujours un gardien qui c'est son premier match en série, qui vient de rentrer. T'es un des meilleurs tireurs d'élite de la Ligue. T'as 8 tirs au but, il faudrait qu'il y en ait un qui trouve le fond du filet. Là.
Mm-hmm.
Ah, je suis clairement d'accord avec, surtout sur le fait de Pastrnak. Le David Pastrnak doit se réveiller.
Ouais.
Puis on l'a vu vers la fin de la saison du côté des Bruins de Boston, à quel point la production offensive de David Pastrnak est tellement importante pour les Bruins. Ouais. Puis en ce moment, Pastrnak ne produit pas. Par hasard, les Bruins perdent. Oui, OK, Patrice Bergeron continue à être Patrice Bergeron. Brad Marchand, des fois, de temps en temps, est capable de faire quelques miracles. Mais il faut vraiment que les Bruins... obtiennent de la production offensive de David Pastrnak parce que c'est leur meilleur joueur offensif.
Ouais. Puis c'est ça. Je sais pas, j'ai pas la statistique, mais quand Pastrnak marque, comme Dou l'a dit, les Bruins vont souvent gagner. Fait que ça passe par lui, je suis très d'accord. Vas-y, Vince, je suis désolé de t'avoir coupé.
C'est correct, c'est vous qui s'en êtes coupé. Je veux juste être sûr de pouvoir le dire. Je me demandais juste, est-ce qu'on ramène la première ligne? Est-ce que Cassidy peut ramener. La première ligne ensemble, Pastrnak Marchand, et Bergeron. Est-ce qu'on ferait ça pour la Game 3 ou ce serait risqué?
Moi, je vois pas pourquoi il l'a pas fait.
Tu t'en vas à maison en plus. Là. Fait que moi, je pense qu'il devrait le faire. Il va avoir le dernier changement, exact. Pardon. Et que réunir les trois, c'est peut-être une bonne idée là, pour donner un peu de spark à ton équipe.
Mais cette ligne-là marche depuis, genre quoi, 4 ans. Là. Je vois pas pourquoi ça n'a pas été fait dès le début des séries. Bref. Moi, je suis très pour ce Bergeron Marchand Paston.
Moi, je vois pas d'inconvénient non plus. Là. Je vois pas d'inconvénient. On le voit souvent. Là, je sais pas si tu vas me confirmer ça, Vincent, mais ça doit arriver des fois que les Oilers, quand ils ont besoin d'un but, ils mettent McDavid et Drazata sur la même ligne. On l'a vu aussi souvent en prolongation. Là,
mais ouais, comme... Il est souvent ensemble avec le bon vieux numéro 13, mais le bon vieux est quand même jeune, avec Jesse. C'est souvent ça. Là. Mm-hmm. C'est ce que Tepet faisait en début de saison là, à domicile. Il mettait Draisaitl, McDavid, Puljujärvi ensemble. Oh sa deuxième ligne, on avait Hyman, Nugent Hopkins puis Yamamoto. Puis quand on jouait à l'étranger, Hyman montait sur la première ligne, Draisaitl descendait sur la deuxième.
Ouais.
C'est ça qu'ils font aussi. Les équipes, quand ils ont besoin d'un but important ou qui ont besoin d'un apport offensif qui manque cruellement, ils mettent souvent les meilleurs éléments ensemble.
Chicago faisait ça aussi avec Kane et Taze là, dans le temps de leur dynastie de 6 coupes en de 3 coupes en 6 ans.
6 coupes en 3 ans, ça aurait été insane.
Ouais. Mais je pense non, c'était pas 3 coupes en 5 ans, non, à 6 ans, right? Non,
6 ans,
ouais. 6 ans, 2010, 2013, 2015.
Ouais, non, t'as raison. C'est juste que dans ma tête, je disais 2010, 2015, mais en même temps, ça fait 6 saisons.
C'est ça. Mais c'est ça, quand il perdait dans un match, Chicago, c'est ça, il mettait Kane avec Taze, puis là, ça faisait des flammèches dans ce temps-là. Puis t'avais un Patrick Sharp ou un Brian Bickle ou un Marianne aussi.
Quelle équipe incroyable, ça,
ah là là.
Des Blackhawks de Chicago. Là. C'est dommage que les Blackhawks ne sont plus cette équipe-là. Là, mais
ouais.
On a eu des bons souvenirs en général. Là. Moi, je vais aller rapidement de ma déception et de ma surprise. Je vais commencer avec la surprise. Moi, je vais aller du côté des Oilers Edmonton. Pour Puljujärvi, hier, je trouve qu'il joue un solide match hier. Vraiment, là, comme oui, McDavid et Evander Kane ont été bons, puis on s'attend à ce que ces deux-là soient bons, mais Jesse Puljujärvi, il a joué tout un match, puis on en a très peu parlé. Il a marqué un but, il a une passe facilité. Il y a un apport offensif qui devient de plus en plus important du côté d'Oilers Edmonton, puis on voit sa progression. Puis je suis très content de voir sa progression pour Puljujärvi, parce qu'il faut se rappeler, ça a été vraiment compliqué pour lui à ses débuts avec les Oilers. Quatrième choix au total, c'était un grand espoir du côté des Oilers. Il y a eu beaucoup de difficultés à s'établir du côté d'Edmonton. Il n'a même eu pas le choix de retourner en Finlande pour retrouver son jeu. Puis là, en ce moment, il joue avec le meilleur joueur au monde, puis il produit. Puis hier, il a marqué un but important, puis il a fait partie d'un groupe de joueurs qui a permis aux Oilers de remporter le match numéro 2 puis de niveler cette série-là. Puis je voulais le mentionner. Ma déception, moi, je vais aller avec Jack Campbell du côté de Toronto. Jack Campbell ou John Tavares, un des deux. Mais
Jack Tavares, il joue?
Ouais, c'est surprenant, hein?
Okay. Ouais, je pensais qu'il jouait pas.
Non, mais c'est ça, tu vois à quel point il est invisible, hein?
C'est une joke ou...
c'était
fort, j'essayais de voir dans ta face si c'était une joke ou pas.
C'est la blague de Vincent vient juste confirmer mon point sur le fait que John Tavares est absent, là. T'as l'impression que c'est le même John Tavares qui a pas joué l'année passée contre le Canadien. Il produit pas du tout. Puis pour un joueur qui gagne 11 millions par année, c'est important que tu prouves à tout le monde que t'es un des bons joueurs de la LNH. Puis aussi, que je voulais revenir rapidement sur Jack Campbell. Jack Campbell, il a pas le choix de faire les arrêts importants, parce que s'il fait pas les arrêts importants, Toronto gagnera pas contre le Lightning. Le Lightning, on sait à quel point c'est une équipe dominante, puis ils ont remporté deux dans la course d'année, puis ils essaient de remporter trois dans la course d'année. Donc, Jack Campbell doit rebondir, John Tavares doit rebondir, puis Toronto en général doit rebondir. Sauf Marner Matthews, parce que Marner Matthews puis Michael Bunting aussi ont joué des bons matchs. Ah, puis Kerfoot aussi, mais ça c'est...
Ouais, Kerfoot. C'est sous-estimé, à mon avis. Kerfoot et Pierre Engvall, les joueurs sous-estimés du côté de Toronto, à mon avis.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Puis aussi un peu William Nylander de temps en temps.
Ouais. On avait parlé au premier match. Là.
Ouais, tu es un des seuls l'année passée qui a bien joué contre le Canadien. Puis c'est un joueur qui d'habitude est capable de se présenter à ses résumatoires. Puis
ouais, vraiment.
C'est, il devient un peu sous-estimé, mais ça, c'est pas le fait que t'as trois joueurs exceptionnels qui sont en avant de lui, là, Matthews, Marner, puis Tavares. Là.
Exactement. Puis là, d'où, permets-moi de te demander, pour les matchs d'asseoir, Penguin
ouais,
Rangers,
ben ça, j'allais...
les Penguins, qu'est-ce que t'en penses, là?
Écoutez, du côté des Penguins, je pense que ça va être un match extrêmement difficile. Moi, je pense que Rangers et Nug vont remporter le match numéro 2. Je sais pas si la magie de Louis Domingue va marcher encore une fois pour les Penguins. Puis, tu sais, je pense que la blessure de Raquel va faire mal là, à profondeur, là. Oui, les Penguins ont extrêmement bien joué, là, mais tu peux pas toujours gagner des matchs en cinquième prolongation. Je pense pas que c'est possible. Mais fais attention, encore une fois, à la ligne au trio de Crosby, Ganza, Ross qui était tout feu, tout flamme lors du premier match. Puis je pense qu'ils sont encore capables d'avoir un bon match. Parce que cette année, moi, ce que j'ai remarqué aussi, puis ça, je vais dire rapidement avant que je vous demande la même question. Moi, je trouve que cette année, ça paraît qu'ils n'ont pas un Ryan Pulock ou Adam Pelleck sur eux. Parce que l'année passée, c'est ça qui a permis aux Islanders de remporter leur série contre les Penguins. C'est qu'ils mettaient Ryan Pulock et Adam Pelleck sur le trio à Crosby avec Genzo et Ross. Puis les trois étaient invisibles. Puis cette année, il n'y a personne qui peut les couvrir. Vincent, t'es en mute.
Yes! Ils n'ont pas de gros shutdown D.
Exactement.
Avec les Rangers.
Non, c'est
ben,
ça.
Il y avait Lindgren, mais là, je ne sais pas s'il va jouer.
Mais Lindgren aussi, il est un peu blessé, on l'a vu au premier match. Hein, mais ouais. Moi, c'est sûr que si j'ai d'autres matchs à regarder, c'est sûr que mon attention va être un peu plus particulière sur la série des Rangers et des Penguins. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir aussi la série du côté de la Floride de Washington. J'ai hâte de voir comment les Panthers vont rebondir.
La Floride doit rebondir, là.
Ouais. Ouais, absolument. Puis vous, les boys, de votre côté, c'est quelle série Penguin qui va retenir votre attention?
Moi, c'est Penguin Rangers. T'en as parlé aussi, là, je vais faire vite, mais t'as parlé de Racco, qui avait une excellente chimie avec Crosby en saison régulière. Là, on l'a mis avec Malkin, en tout bref. Puis ce que je trouve intéressant aussi, Penguin Rangers, c'est que là, on a fait 3 prolongations. C'est très éprouvant mentalement et physiquement un match comme ça. Et les Rangers ont perdu, donc c'est encore plus éprouvant. Donc, est-ce qu'on va voir les effets de cette défaite-là qui a été une défaite extrêmement crève-cœur, le perdre après presque 6 périodes de jeu? Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment les Rangers vont rebondir. Ça pourrait changer absolument tout, ce match numéro 1-là. Voilà. Donc, moi, j'ai très hâte de voir comment les Rangers s'ils vont être affectés par ça et comment les Penguins aussi vont rebondir après cette victoire qui a dû faire beaucoup de bien.
Ouais, c'est sûr. Puis aussi, Christopher Letang qui a joué beaucoup de minutes lors de ce match-là.
Malkin aussi.
Malkin, Crosby aussi. C'est des joueurs qui sont âgés là, ben, pour au niveau des athlètes professionnels. Là, Le temps à 35 ans, Crosby va bientôt avoir 35 ans, Malkin va bientôt avoir 36 ans. T'sais, c'est des joueurs qui sont considérés comme vieux au niveau du hockey de la nationale. Puis je pense que tu parlais du côté de la fatigue des Rangers de New York. Je pense que ça va être vraiment intéressant d'avoir plus la fatigue du côté des Penguins de Pittsburgh vu que c'est un groupe un peu plus âgé.
Mm-hmm.
Ouais. Moi, je sais que ça va être un bon match. Il va y avoir d'autres bons matchs aussi. Toi, Vincent, rapidement, c'est quel match qui va retenir le plus ton attention?
Ben, je pense que... Je sais pas si... vous allez dire les Penguins contre les Rangers, mais ça va savoir si Louis Domingue est capable de répéter ce qu'il a fait en prolongation là, quand il est rentré. Parce que si c'est le bon vieux Louis Domingue là, qui est là ce soir, là, je pense pas que c'est un match qui va être intéressant à regarder. Mais je vais y aller avec le match Panthers-Capitals. Voir comment les Panthers sont capables de rebondir. Puis,
Il y a personne qui donne une chance à Dallas ou à Nashville de niveler la marque dans leur série?
Ben, Dallas, tu sais, ils ont perdu juste 1-0. Fait. Comme mes coachs de hockey me disaient dans l'atome ou le Pee-wee, une shot, ça peut être un but. Fait que, tu sais, si Dallas sont capables de rester proches au niveau du pointage des Flames, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais vous savez que je n'apprécie pas tant que ça, Dallas. Bref, puis pour les Prédateurs, bonne chance. Est-ce que à l'Avalanche va sortir autant fort? C'est à prévoir, je pense.
Mm-hmm. C'est intéressant de savoir si David Rittich va être devant les buts ce soir ou pas.
Ouais,
ou s'ils vont faire confiance à Connor Ingram, gardien numéro 3 des Prédateurs de Nashville. Ça va être intéressant de voir du côté de l'Ouest si les deux équipes sont capables de rebondir ou pas. Là, on parle quand même des deux meilleures équipes dans l'Ouest. Pas deux meilleures équipes dans l'Ouest, okay, mais deux meilleures équipes dans l'Ouest, celle de l'Avalanche Colorado et des Flames de Calgary qui ont prouvé. De façon différente, je dirais, parce que c'était deux matchs complètement différents. Ouais. Ça va être intéressant. Sur ce point, c'est ça qui finit notre résumé de la journée 3 dans l'initiative de hockey. Mais sans tardif, Olivier Prince-Grolot, je vous remercie de venir avec moi.
Merci à toi, Doux.
Comme à l'habitude. Et on se revoit demain. Ali, toi, malheureusement, on te verra.
Malheureusement, ça va être une petite pause demain, ouais.
Et Vincent, on va se revoir demain pour un autre épisode de Devinez quoi? Aux Premières Loges et non de Retour à France comme j'avais fait la petite erreur il y a deux jours. Puis c'est ça, au nom de toute l'équipe, je suis Dwayne Ibrahim et on se voit demain pour un autre épisode.